Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée des Utopiales. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux dans la salle et moi je suis surtout ravie d'avoir un merveilleux panel avec moi pour réfléchir sur les réfugiés climatiques. Je vais vous présenter tout de suite nos invités. Donc nous avons tout de suite à ma gauche Jean-Laurent Del Socorro, auteur de fantasy historique. Son dernier roman c'est Boudica, que vous trouverez juste à côté. Et en plus d'être auteur, c'est un lecteur passionné de science-fiction qui a écrit quelques nouvelles qui traitent de la question des réfugiés climatiques. En fait, beaucoup de nos participants à cette table ronde ont réfléchi énormément sur cette question. Sarah Dock. Alors Sarah, c'est une femme multitâche, autrice, anthologiste, traductrice. Traductrice en particulier de Paolo, ça y est, c'est parti. Paolo Pacigalupi, c'est ta faute. ton dernier roman, c'est Technoferry. Et tu es également présidente du prix Julia Verlanger, qui sera remis pendant les Utopiales.
Demain soir,
plus précisément. À quelle heure?
À
20h. Donc soyez là demain à 20h pour assister à la remise du prix Julia Verlanger. Philippe Aubert-Côté. Alors Philippe, tu nous viens du Canada et tu as reçu il y a très peu de temps le prix Aurora Boréal 2016 pour un roman qui s'appelle Le jeu du démiurge. Donc tu es auteur, mais tu es également spécialiste de bioéthique.
Oui, spécialiste c'est un grand mot, mais bioéthicien, oui.
Voilà, bioéthicien. Je pense que cet aspect nous intéressera aussi dans la discussion sur les réfugiés climatiques. Et enfin, Pierre Bordage, que souvent on ne présente plus, mais que je vais présenter tout de même. Grand auteur français qui a inspiré quelques générations d'auteurs maintenant. Pierre, tu as écrit ton dernier roman, non, c'est pas un roman d'ailleurs, c'est un recueil de nouvelles, s'intitule « Hier, je vous donnerai de mes nouvelles ». Tu as écrit combien de romans maintenant?
Je crois que c'est 65.
65. On ne compte plus tes prix?
Non. Enfin, je sais pas. J'y compte pas en tout cas, ouais.
Et on va lancer tout de suite le sujet. Sur les réfugiés climatiques, tu me disais juste un petit peu avant que toi, ce qui t'intéressait dans cette question, qui est une question brûlante aujourd'hui, hein, on vient d'avoir quelques ouragans majeurs, on vient d'avoir des déplacements de population, donc ça y est, on est dans le monde réel et dans notre monde d'aujourd'hui, le problème arrive. Tu t'étais beaucoup, toi, posé la question de la réception de réfugiés, les conflits culturels, avec les deux points de vue. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Je crois que l'ONU prévoit quelque chose comme un déplacement de 250 millions de personnes d'ici les années 2050, ce qui est tout à fait énorme. Et je pense aussi que depuis la nuit des temps, on se bagarre pour les ressources en permanence, pour l'eau, pour la nourriture. Et voir arriver 250 millions de personnes sur des territoires qui survivent ou qui vivent avec leurs ressources, ça va poser un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'on n'est pas prêt du tout pour accueillir des réfugiés climatiques. Déjà, on n'est pas prêt pour accueillir des réfugiés tout court, qui ont un statut pourtant à l'ONU, les réfugiés politiques, alors que les réfugiés climatiques n'ont aucun statut actuellement juridique. Donc, ça va poser d'énormes problèmes. Et puis, moi, j'ai réfléchi à ce problème. On m'avait demandé des nouvelles sur la guerre climatique, donc je me suis intéressé au sujet. Et j'ai un peu renversé le point de vue. J'en ai profité pour renverser le point de vue un peu historique parce que j'ai fait par exemple une nouvelle qui s'appelle Une plage en Normandie. En 1945, les Américains ont débarqué en Normandie. Là, ils débarquent en Normandie, mais en tant que réfugiés climatiques parce que leur pays subit divers problèmes, dont par exemple l'explosion du Yellowstone, qui est tout à fait possible, ou des zones submergées aussi qui sont tout à fait possibles. Et donc, ils cherchent à prendre racine, enfin, ou à débarquer sur un pays qui s'appelle l'Europe, enfin, sur une région qui s'appelle l'Europe, qui est la plus épargnée par les changements climatiques. Et comment on va accueillir ces nouveaux réfugiés? On va les accueillir simplement avec des barricades et des fusils, quoi. Ce qui est un renversement de l'histoire, parce que quand on les a accueillis en 1944, c'était pour une libération, et là, Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas prêts du tout. Quand je vois un peu les réactions politiques dans le monde, quand je vois les déclarations de Trump du style l'Amérique d'abord, l'Amérique d'abord, les murs, on crée des nouveaux murs partout. Nous ne sommes pas du tout prêts à accueillir des réfugiés climatiques. C'est un sujet qui est complètement mis sous le tapis pour l'instant et qui va nous, à mon avis, exploser à la figure à un moment ou à l'autre. Et évidemment, comme d'habitude, on ne prend pas les devants pour régler ce problème. On attendra que ce soit la crise pour pouvoir régler cette chose qui se fera, à mon avis, à coup de violence assez terrible, je pense.
On parle déjà de 28 millions de réfugiés climatiques en 2017. Et moi, je viens de Belgique, où nous avons un ministre des Affaires étrangères particulièrement gratiné, Théo Franken, qui est un politicien d'extrême droite flamand, qui, contre l'avis de l'Europe, contre l'avis des tribunaux belges, continue à expulser des gens vers des zones de guerre.
Je voudrais, oui, continuer à compléter cette ligne-là, en fait, de questions et d'interrogations. Ce que dit Pierre est très juste sur le statut du réfugié climatique. Quand on met le mot réfugié aujourd'hui derrière, il y a effectivement des événements importants, des tornades, des typhons. Encore aujourd'hui, c'est au sein d'un même pays qu'il y a les déplacements de population. Pas toujours, hein, mais souvent, il y a encore le cas. Derrière le terme de réfugié climatique, il y a la nouvelle question de se dire, il y a des gens, de la même façon qu'ils quittent une zone de guerre, ils vont le quitter parce que leur territoire n'est plus habitable, ponctuellement ou définitivement. Et le statut n'est pas encore très bien défini, donc ça c'est un vrai premier problème. Et moi je rajoute une question. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on voit avec les réfugiés de guerre qui ont un statut, on peut dire que ça fait appel à une... le moins qu'on puisse dire, la sensibilité humaine de dire qu'il y a des gens qui fuient parce que leur vie est en danger. Et c'est très compliqué aujourd'hui qu'on le voit, notamment en Europe. Est-ce que des gens qui viennent et qui, pour des raisons climatiques, c'est-à-dire que leur lieu, leur pays d'habitat n'est plus habitable, auront-ils encore moins de compassion quand ils viendront demander l'asile dans des pays? Moi, je rejoins Pierre. Je pense qu'on se cache, on se voile complètement la vue sur cette question. Quand elle va arriver, ça va être extrêmement compliqué pour ces gens-là.
Ça va déjà être compliqué à l'intérieur des territoires européens. Ouais. Je reviens sur la Belgique. La plus grande partie de la Flandre est sous le niveau de la mer. Au moment où la Manche, où la mer va monter, la Flandre, qui n'a pas encore remonté ses digues, va être inondée. Et comment cela va-t-il se passer avec déjà le conflit qui existe actuellement entre francophones et néerlandophones, au moment où les néerlandophones qui méprisent les francophones vont avoir besoin de leur aide?
Mais il y a un élément qui me frappe dans tous les échanges qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est que ce qui semble préoccupant pour les réfugiés climatiques, le problème n'est pas matériel. On ne pose pas la question de est-ce qu'on peut déconstruire des villes et construire de nouvelles villes ailleurs pour déplacer les gens. Les problèmes qui sont évoqués sont surtout politiques. C'est humain, c'est quoi le statut à donner à ces gens? C'est l'incapacité, comme Pierre le disait, à aussi anticiper. On peut anticiper, on sait qu'il y a une crise climatique, on sait qu'il y aura des problèmes, mais il y a une certaine inertie au niveau du corps politique. On en a eu un bel exemple, justement, en Amérique, avec les ouragans, mais il y a une autre crise sur laquelle j'aimerais revenir plus tard, mais qui illustre très bien aussi ce fait-là. Le problème est surtout politique.
Tout à fait, mais voilà. En Flandre, ils ne s'en sont pas encore occupés de leur digue, alors qu'aux Pays-Bas, ils ont déjà surélever toutes les digues pour protéger leurs terres de la montée des eaux.
Et puis les digues ont une efficacité qui n'est pas encore vraiment prouvée non plus.
Mais c'est déjà mieux que rien. De prévoir.
Oui, ils essaient de prévoir. Ouais.
La science-fiction a souvent mobilisé des afflux massifs de populations, qu'elles soient extraterrestres ou qu'elles soient tout simplement humaines. Est-ce qu'il y a des titres, des ouvrages auxquels vous référez lorsque vous pensez réfugiés climatiques?
Alors, je ne me rappelle plus le titre, mais je crois, c'est peut-être Christopher Priest qui a fait une chronique sur les réfugiés qui arrivent en Angleterre, d'Afrique, mais je ne me rappelle plus le titre. Je pense que c'est par rapport à des événements climatiques. justement, qui pose cette question d'un afflux massif sur un territoire qui est censé pouvoir accueillir et qui n'accueille pas.
Il y a AquaTM et Exode de Jean-Marc Ligny qui ne parle quasiment que de ça. On peut parler d'une certaine manière de Demain une oasis d'Ayurdal qui pose déjà le problème de la désertification. On peut parler de la série Blackout, Hideout et Time Out de Andreas Eschbach qui pose à nouveau ce problème-là. On peut parler de Baxter avec Déluge et Arche. On peut parler de bordage de plein de manières, entre le feu de Dieu, les fables de Lumpur, Wang. Il y a ces questions-là qui sont adressées. Et puis, bien sûr, il y a tout, Bachi Galoupi.
Pas mieux. Il y en a qui ont bien révisé, quand même. Il y a des courageux aussi. Mais je pense que au-delà du problème des réfugiés climatiques, c'est-à-dire des gens qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils ne produisent plus assez de ressources pour les nourrir, il y a toujours eu ces espèces de grandes migrations massives. Il y a toujours des bagarres pour les ressources. Je ne sais pas, par exemple, le Golan étant un exemple parfait de contrôle de l'eau sur le Moyen-Orient. Il y a eu ce qu'on appelait les barbares dans le temps qui descendaient de l'Empire romain pour essayer de trouver des conditions de vie meilleures que dans le Grand Nord. Il y a toujours cette tentation-là. Même maintenant, il y a de nos retraités qui vont se réfugier climatiquement au Maroc ou en Espagne ou au Portugal. Donc il y a plein de vagues de migration climatique. Sauf que là, on va avoir affaire à quelque chose d'extrêmement massif, quoi, et que le problème des ressources va se poser. Est-ce qu'on est capable de partager les ressources ou est-ce qu'on va interdire simplement pour préserver nos propres ressources? Ça, c'est la grande question d'anticipation qu'on devrait... Parce que tu as dit fort justement que les gouvernements n'anticipaient pas. Il n'y a qu'une catégorie de gens qui anticipent, c'est les auteurs de science-fiction. À part ça, les gens ne sont pas capables de prévoir dans le long terme ce qui peut se passer. Et en plus, ça peut nous retomber à la figure parce que ça peut être nous qui sommes d'accord. On est en principe, on est soi-disant en Europe, surtout l'Europe du Nord d'ailleurs, protégés des changements climatiques. Mais qui sait ce qui peut se passer? Il y a eu la tempête Xynthia en Vendée qui a submergé les fameuses digues dont parlait Sarah et qui a fait plusieurs morts. Il y a des endroits où la mer était il y a 2 ou 3 siècles qui reprennent sa place à tout moment. On ne sait pas. Les modélisations de climat sont plus... pour le moins contradictoire par moment. Donc il y a plein de possibilités qui se passent et ça peut nous retomber à nous sur la figure. Et j'ai beaucoup aimé la fin du film Le jour d'après parce que ce sont les Américains qui sont obligés de se réfugier au Mexique. Et imaginez qu'il y ait le mur qui empêcherait les Américains de se réfugier au Mexique. Ben voilà. Ils en voudraient énormément à Monsieur Donald, qui n'est pas le clown de McDo. Hein. On est d'accord.
Juste, mais c'est vrai que sur ces éléments-là, quand on décortique, dans le réfugié climatique, il y a le problème donc, du réfugié, de l'individu extérieur, le climat, donc l'écologie, et vous soulevez tous le problème de la ressource. On a là 3 thématiques. Si ce ne sont pas les thématiques du 21e siècle aujourd'hui, de savoir l'accès, la réutilisation et l'économie de la ressource, l'écologie ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de prévoir et de se mettre ensemble pour avoir une politique écologique au moins à moyen terme, et les mouvements de population, on a le cocktail explosif qu'effectivement personne ne veut voir. Donc là, on est vraiment sur plus qu'une thématique, j'allais dire, climatique. On est sur une représentation des 3 grosses problématiques de ce début du 21e siècle.
Il y a par exemple un truc qui s'était passé à Bordeaux il y a quelques temps. J'ai vu ça dans un film de Jean-Paul Jaud sur l'énergie. Et où, à un moment, il y a eu une sécheresse. Il y a eu une 2003, je ne sais plus, il y a eu une sécheresse assez importante. Et donc, les centrales nucléaires dépendent de l'eau pour se refroidir. Et il se trouve que le niveau de la Garonne, je crois, avait baissé tellement qu'on ne pouvait plus refroidir un réacteur. Et que donc, on avait appelé, le préfet avait appelé Alain Juppé, maire de Bordeaux, pour préparer l'évacuation de la ville. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez aussi. On a 55 centrales nucléaires. Il est fort possible qu'il y ait des problèmes un jour parce que justement le réchauffement, c'est pas très bien les fermer non plus. D'ailleurs, vous voyez Fessenheim, on la ferme pas parce qu'on sait pas le fermer tout simplement. Hein. Donc si imaginez que avec ces conditions climatiques, les centrales explosent ou on sera obligé de se réfugier ailleurs parce que le territoire sera devenu invivable. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est possible. Et nous pouvons devenir les futurs réfugiés. Quoi. Nous irons tous en Belgique, parce que ça a l'air sympa.
Et c'est là où le rôle de certains auteurs de SF aujourd'hui est un rôle de lanceur d'alerte.
Ouais.
C'est le travail, entre autres, de Paolo Bacigalupi, dont chacun des romans est une mise en garde sur l'avenir qui nous attend, sur la montée des eaux, la disparition des énergies fossiles, sur les maladies semencières, énormément de choses qui... La guerre de l'eau dans certaines régions qui sont en désertification. Et donc, tout ce qui nous attend, déjà, maintenant. Et ça devient le rôle de certains auteurs de vraiment essayer de prévenir le public des catastrophes en devenir.
Mais ce qui est dommage, c'est que les auteurs de science-fiction ont ce rôle-là, mais c'est que les décideurs lisent peu de science-fiction. Ils ne sont même pas foutus d'écouter les experts qui engagent pour les conseiller. On en a eu un bon exemple. La crise auquel je faisais allusion plus tôt, cet été au Canada, on a eu une crise de migrants à cause de Donald Trump. Et les politiciens ont été prévenus longtemps d'avance qu'à l'été 2017, qu'il allait avoir un problème. Ils n'ont rien fait. Ils ne se sont pas préparés et puis ça a suscité un chaos à cause au niveau légal. Je pourrais y revenir plus tard pour détailler la problématique, parce que ça peut illustrer ce qui va arriver ailleurs aussi. Mais ça faisait des mois que les politiciens des provinces du Canada se faisaient dire par leurs experts « Il y a un problème, préparez-vous, prévoyez. » Ils n'ont pas levé le petit doigt et ça a été un bordel considérable.
C'est, dans les deux cas, moi, je trouve que moi, ça m'interroge beaucoup parce que ce soit au niveau de la science-fiction qui essaie de prévoir des scénarios plausibles ou que ce soit dans la vraie vie où il y a des gens qui anticipent, les gens savent que ça va arriver, que de toute façon, on va devoir affronter la situation, mais ils ne l'anticipent pas. Moi, ça m'interroge. C'est à un moment, pourquoi, en fait ? Parce que je veux bien qu'il y a plein de raisons économiques, tout ça, mais on sait que ça va arriver. On sait que ça va nous impacter. Pourquoi politiquement on n'arrive pas à se mettre d'accord au moins pour dire on l'aborde ce problème ? Parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient même abordés, je me trompe peut-être, hein, mais qu'ils soient vraiment abordés largement par tous les pays. Surtout aujourd'hui où on voit que c'est de plus en plus présent.
C'est même l'inverse qui se passe parce que j'ai l'impression que politiquement plus ça va, plus les pays ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Les extrêmes droites montent partout, ce qui veut dire le nationalisme, le repliement sur dans les frontières, l'établissement des frontières, le retour des frontières. Des pays demandent leur indépendance alors que normalement, enfin, on n'a pas la conscience que nous sommes des humains, qu'on fait partie de la même espèce et que j'aime beaucoup cette phrase du Christ, je sais avoir là-dedans, mais qui dit ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire c'est à l'ensemble de la communauté qu'on le fait. Donc si on n'est pas capable, imaginez un homme politique qui arrive maintenant avec un programme en disant voilà, il va y avoir, on va accueillir 12 millions de réfugiés climatiques ou politiques dans les années à venir, ce qui veut dire, messieurs, dames, que vous allez devoir partager vos ressources, c'est-à-dire vous allez manger un peu moins peut-être, ça ne fera peut-être pas de mal non plus, vous allez peut-être prendre une douche par jour, une douche par semaine ou tous les deux ou trois jours parce que faut économiser l'eau. Donc ça a un coût, le partage, mais peut-être c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça nous permet de réfléchir sur épargner. Nous avons une surabondance dans les pays occidentaux. Épargner cette surabondance, cette espèce de course effrénée à la consommation, ça pourrait amener quelque chose de différent. Mais cet homme politique qui dirait ça, qui aurait ça dans son programme, n'aurait aucune chance d'être élu. Mais aucune chance, hein, il en ferait 1%. On avait un type qui s'appelait René Dumont dans les années 70, qui était un écolo, un petit peu avant-gardiste et tout ça. Ben, c'est des gars qui faisaient 0,5% aux élections. Donc, voilà. Est-ce que le peuple de France, ou d'ailleurs, ou de Belgique, ou de Canada, ou des États-Unis, est prêt à entendre ce genre de choses ? C'est-à-dire que finalement, on se grandirait sûrement en accueillant les gens et en partageant avec eux leurs ressources. Est-ce qu'on est capable d'entendre ce genre de choses ? Est-ce qu'on est capable de se déranger dans son confort pour accueillir des gens, pour peut-être en loger, pour tout ça ? Est-ce qu'on est capable de faire ça ? C'est la question qui est posée, je pense.
D'autant plus que tu parlais de la montée de l'extrême droite. On est dans une résurgence de l'État-nation et de ce qu'on appelle le récit national. Et donc du refus de l'autre, d'une espèce d'invention d'un peuple, d'une ethnie française, par exemple, ou d'une ethnie allemande, ou d'une ethnie espagnole, comme s'il y avait des différences entre nous, et qui ferait qu'un Français a une histoire, porte quelque chose qui refuse l'autre.
Comment la science-fiction, d'après vous, apporte, enfin, dans quelle mesure la science-fiction peut apporter des solutions ou des propositions de solutions à ces problèmes. Quelles sont les idées qui sont apparues déjà et qui pourraient être appliquées typiquement si on le souhaitait, si nos politiques lisaient de la science-fiction?
Alors là, je vais rejoindre Sarah sur les écrits de Machigalupi. Alors, typiquement, c'est le scénario raisonnable, c'est-à-dire que confronté à la situation, souvent la ressource d'énergie ou quelque chose comme ça, on l'affronte en investissant dans la recherche, en investissant dans une société qui devient raisonnable, qui a conscience, par exemple, qu'au niveau des ressources, ben, il y en aura moins où il va falloir partager, où il va falloir recycler, où il va falloir faire attention. Et il y a une prise de conscience qui, même si elle n'est pas évoquée, moi je le sens comme ça, politique. C'est-à-dire, à un moment, bon, on n'a pas le choix. Donc c'est des grands mouvements qui sont impulsés pour que la société fasse attention à comment, au quotidien. Pierre demandait, est-ce que les gens sont prêts ? Je pense que les gens ne sont pas prêts. Par contre, les gens se préparent. Et je pense que la science-fiction, elle montre ça. Elle montre qu'on peut, on peut préparer les gens à ça et à leur faire comprendre qu'à un moment, il va falloir partager. À un moment, ça va changer, de toute façon. Et dans certains récits de science-fiction, on montre ça. On montre des sociétés qui ont accepté la situation et qui la prennent en main.
Je vais lancer sur une autre. Essentiellement, là, ce dont on parle, c'est d'êtres humains qui vont se retrouver sur un espace plus petit. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que ça vous semble, et là, c'est un peu à Philippe Vert que je m'adresse, est-ce qu'on pourrait imaginer tout simplement aussi se transformer pour s'adapter à ces nouveaux changements climatiques et à être capable de vivre dans l'eau, par exemple, ou dans le désert ?
Oula, comme dit Pierre, mais à long terme peut-être, pourquoi pas, tout est possible, mais je me dis que ce serait d'aucune utilité à court terme, mais zéro utilité à mon sens, d'envisager cette voie-là, parce que transformer l'être humain, tout ça, ça impliquerait, c'est toute une mise au point technologique, donc ça, on n'est pas, comme on dit chez nous, on n'est pas sorti du bois, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit ici, rapidement. Et en plus, il y a l'acceptabilité sociale de ça. On n'est pas encore sorti de l'auberge là-dessus. Donc, moi, c'est une voie qui me semble complètement stérile. Je crois que la réflexion doit plutôt être au niveau politique, social, comment adapter nos lois, nos réflexions pour justement prévoir à l'avance une gestion adéquate de cette crise-là et anticiper c'est quoi les ressources, les efforts qui vont être faits. Et à mon avis, le problème est à ce niveau-là parce que, comme je le disais tantôt, construire de nouvelles villes, réaménager des espaces de territoire, bon, c'est pharaonique, c'est énorme comme travail, mais ce n'est pas impossible, c'est faisable, c'est facile à conceptualiser. Mais le problème, c'est l'ajustement des lois, la réflexion, la volonté de le faire. Je crois que c'est ce plan-là qu'il faudrait attaquer. Donc, le transhumanisme, non, ce n'est pas une solution dans ce cas-ci, à mon sens.
Bon, pour le désert, il y a le distill de Frank Herbert. Mais je crois qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore la technologie pour avoir un costume qui puisse recycler notre propre eau, que ce soit notre sueur, notre urine, etc. C'est un petit peu compliqué à faire.
On ne réfléchit pas du tout là-dessus, d'ailleurs, globalement. Et puis après, ce que tu disais par rapport aux années... On parle de 2050, 250 millions, on n'aura jamais le temps de faire des cités lacustres ou flottantes ou des expéditions dans l'espace, faire des sortes de comme dans la série L'Essence, c'est-à-dire des sortes de stations spatiales générationnelles. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, là. 2050, c'est demain. Enfin, là, on est en 2017, il reste 33 ans. Il faut vraiment penser très fort à ça, essayer de dépasser ces notions d'État-nation, de frontières et de préférences nationales pour pouvoir se lancer à fond avec une coopération de toutes les nations technologiques, Chine, Inde, États-Unis, Ouais, mais c'est ça, on est l'humanité, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent les frontières, on s'en fout. L'Europe avait commencé à abolir un peu ça, et c'est une sorte de retour en arrière gigantesque ces temps-ci, où il y a même des provinces comme la Catalogne qui se séparent de leur propre pays. Enfin, c'est à l'envers de tout, quoi. On est là pour abolir les frontières, et les frontières se recréent en permanence. Et tant que les frontières se recréent, c'est la clôture. C'est dès que les gens ont eu de la sédentarité, puis ont commencé à amasser pour prévoir. Bah, ils ont fermé pour éviter qu'on vienne leur piquer leurs ressources. Donc là, on est sur cette espèce de grand territoire qui se ferme parce que c'est America first, ou c'est Europe first, ou c'est France first, ou c'est... voilà, et tant qu'on n'aura pas dépassé ça, qu'est-ce qu'on pourra faire? Seule la conscience... non, j'anticipe un peu le débat de dimanche. La conscience humaine, la conscience de l'humanité globale peut changer les choses. C'est-à-dire, oui, le Rohingya qui est en train de marcher pour échapper à sa condition, ben ouais, c'est un frère. C'est quelqu'un comme nous, il parle pas la même langue que nous, il n'a pas la même couleur de peau que nous, mais c'est un frère. Et tant qu'on n'aura pas cette notion-là, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Enfin, ça pourra pas marcher, parce que politiquement, ce qui semble se passer maintenant dans le monde, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc je pense que la situation risque de s'aggraver plutôt, sauf si nous, humains, nous, peuple, prenons conscience et portons au pouvoir des gens qui expriment une quelque chose de différent.
Mais d'autant plus que cette fermeture est systématiquement, en ce moment, la fermeture des riches contre les pauvres.
Ouais.
Par l'exemple de la Catalogne est là, est flagrant pour ça. Et c'est aussi dans les textes de Bacigalupi où on crée, par exemple, des arcologies dans le désert, mais où il y a de l'eau, où il y a des fontaines, où il y a de la végétation. Mais c'est réservé systématiquement aux plus riches.
Bah, c'est l'histoire des golfs.
Oui, complètement.
Les golfs qui nécessitent une quantité d'eau effroyable pour que le plaisir de quelques-uns...
Les piscines
privées, les trucs. Bah, voilà.
Et Las Vegas qui est une aberration en plein désert d'énergie, d'eau. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que pour revenir sur le point de départ de la question sur est-ce qu'on peut, par la technologie ou la science, réinvestir des lieux qu'on n'investit pas, j'allais dire c'est répondre demander à la science de répondre à une problématique où justement ce qui est soulevé là, c'est que la dimension humaine n'est pas encore réglée. On peut humainement, sans avoir à faire appel à la science, résoudre le problème. Il faut se mettre tout autour de la table pour répondre à ce problème-là. Donc c'est un peu dire, ah ben on va trouver une solution technique miraculeuse qui va nous... Peut-être, ce serait parfait. Mais je pense qu'avant ça, il y a surtout, trouver une solution sociale pour résoudre le problème. Je pense que ce serait se leurrer de chercher une réponse technologique à un problème qui est d'abord sociétal, à mon avis.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je serais en train de répondre, de poursuivre là-dessus. Sarah a évoqué quelque chose, mais ça a soulevé chez moi une question. La fermeture des riches aux pauvres. Ce que j'ai observé dans les derniers mois, mais au Canada, ceux qui ont été le plus inquiets de la montée des migrants qui ont essayé de fuir les États-Unis à cause de Trump, de façon présentée, c'est que dans... les politiciens ont délaissé la crise et ça a laissé un espace médiatique vide qui ont été meublés par toutes sortes de groupes d'extrême droite au Québec et dans le reste du Canada aussi. Et ça me frappe que ceux qui, justement, ont le plus critiqué les politiciens et qui se sont plaints de cet afflux de migrants-là, ce ne sont pas des riches. Curieusement, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on pense toujours les riches qui bloquent l'accès aux pauvres. C'est vrai, par les décisions politiques ou autres, ou est-ce qu'il y a des ficelles dans l'ombre, bon, sans tomber dans les trucs... dit qui est, mais la population que moi je vois se plaindre n'est pas la plus riche. Il y a un phénomène intéressant à analyser. Je ne sais pas si ça suscite une réflexion chez vous.
Juste, ça soulève une question. Est-ce que ce n'est pas parce que les moins lotis de la population savent que ce n'est pas les riches qui vont partager, mais c'est encore ceux qui n'ont pas beaucoup qui vont devoir partager entre eux? C'est peut-être ça aussi, non?
Oui, mais je pense question, que c'est des réflexes de peur, hein, tout simplement. Une espèce d'instinct grégaire qui se met en place. Les gens se regroupent entre eux. Pour se rassurer par rapport à une situation qui semble les dépasser. Bon, ça crée la peur, crée beaucoup de réactions extrêmement angoissées, donc extrêmes, je pense. Mais ça ne prouve pas forcément l'intelligence humaine, tout ça, mais bon.
Cet afflux massif, est-ce que vous quand vous projetez, vous, ces images-là en tant qu'auteur, est-ce que vous imaginez une fin en termes de ghettoisation ? Est-ce que vous imaginez des fins sanglantes ? Est-ce que vous imaginez une résolution finalement raisonnée, raisonnable ? Comment vous voyez les choses ?
Pour l'instant, dans l'état des choses, je vois qu'il y a des conflits très violents entre différents types de populations. Surtout qu'il y a des armements un peu partout dans le monde. Donc je pense que si on continue dans cette voie-là, je pense qu'on verra des affrontements extrêmement violents pour les ressources. Et des affrontements sans merci, hein, et population contre population. Peut-être manipulés par des politiciens ou des leaders religieux ou politiques. Mais on va vers, pour l'instant, enfin, moi, ce que je vois, c'est de prévenir dans les nouvelles consacrées à ça. On va se bastonner pour prendre place sur un territoire et essayer de... Dans l'état actuel des choses, encore une fois, si nous, on prend conscience, nous sommes la population, nous sommes le peuple, donc nous sommes les décideurs, finalement, parce que c'est nous qui mettons les gens au pouvoir, sauf s'il y a une prise de conscience globale dans la population qui se dise... Non, on ne va pas aller vers le conflit climatique, on va essayer de d'arranger les choses, on va porter au pouvoir des gens qui nous représentent. S'il n'y a pas cette solution-là, je pense que ça peut faire très très mal. Quoi.
Dans l'état actuel des choses, on ne peut qu'être pessimiste. Alors on peut essayer de créer des utopies, d'inventer des sociétés futures qui soient plus ouvertes, mais ça ne serait pas très réaliste.
Je suis un peu l'idéaliste du groupe. Sur les écrits, moi, je pense que j'essaie toujours d'imaginer une fin un peu positive. J'ai donné un exemple. Je ne sais pas si légalement ça s'appelle comme ça. C'est la volonté du peuple. Je vais vous l'illustrer très facilement. Quand le mur est tombé à Berlin, le Berlin-Ouest a dit qu'il est formellement interdit d'aider pour les gens de l'Ouest, quelqu'un de l'Est a passé, ça reste une zone interdite, vous ne devez pas passer. Et là, il y a eu ce qu'on appelle la volonté du peuple, c'est-à-dire tout Berlin-Ouest est allé au mur, a tendu les bras et a fait venir, a aidé les gens à traverser. Évidemment, l'Allemagne de l'Ouest n'allait pas mettre toute une ville en prison, donc dans ce qu'on appelle la volonté du peuple, c'est-à-dire après coup, il y a eu un geste public tellement fort qu'on estime que c'était légal à ce moment-là. Et je me demande si, là aussi, dans certaines situations, on ne pourrait pas le vivre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je n'arrive pas à croire que des gens n'arrivent pas à avoir de l'empathie, que ce soit pour les réfugiés climatiques, mais pour les réfugiés en général, que des gens qui subissent des zones de guerre ou des gens qui ne peuvent plus retourner dans leur pays parce qu'il a été dévasté par le climat, on ne se dise pas fi des lois, on va quand même accueillir ces gens quoi qu'on en dise individuellement nous quoi. Moi j'y crois à ça en fait encore.
Ouais, mais déjà en France il y a des gens qui aident des réfugiés politiques et qui se font condamner par l'État parce que c'est une aide illégale et tout ça, donc ça va être compliqué, mais moi je suis comme toi très optimiste. je parle de l'état actuel des choses, donc ce qui veut dire que je pense qu'on peut changer cet état des choses, c'est ça qui est important. On a une vingtaine d'années pour changer complètement l'état des choses. Alors, est-ce que les écrits d'auteurs de science-fiction suffiront ? Je ne pense pas. Il faut vraiment, encore une fois, une volonté citoyenne, effectivement, pour fraterniser et dire non, on n'a rien à foutre des lois, nous on ouvre nos portes, nos maisons. Et, bon, c'est ce qui n'est pas simple, hein, ce qui peut poser des problèmes, mais il faut s'attendre à ça, il faut se préparer à ça. Hein, cette espèce de manque d'anticipation qui nous fout complètement en l'air, et on n'est pas capable pour l'instant de prévoir ça, de se préparer à ça. Donc moi, je reste optimiste, sinon je n'écrirai pas. Si j'écris pour fermer la porte au nez du lecteur en disant « oui, il n'y a aucun espoir, tu vas crever », je n'écrirai pas. Hein. Donc, il y a toujours une porte ouverte à la fin. Et cette porte, j'espère qu'il va s'ouvrir pour des solutions.
Non, je crois qu'il y a des solutions aussi. Je suis un optimiste aussi pour ces questions-là. On parlait d'implication citoyenne. Ce que j'ai vu dans les derniers mois, au Canada, une partie de la population est très ouverte à accueillir des migrants et les aider, puis il y a eu des très beaux mouvements de solidarité. Ce qui m'a plus inquiété, ça a été l'attitude des politiciens qui ont fui l'espace public et qui ont refusé de discuter avec la population. Parce qu'il y a eu, face au bordel migratoire qu'il y a eu pendant l'été au Canada, une partie de la population demandait à ce qu'on revoie les structures en place, qu'on ajuste pour éviter certains dérapages, pour la sécurité aussi des migrants, de la population d'accueil, mais aussi des migrants. Et ça a été de voir que les policiers ont refusé de discuter, d'écouter la population et ont imposé des choses et ça a fait monter la tension. Donc, je vois qu'il y avait une capacité de la population à accueillir les autres, à mettre en place des solutions, mais ils voulaient participer au processus et ils ont été carrément écartés par la classe politique. Et ça a engendré un plus gros conflit. Et moi, c'est ça qui m'a inquiété. Je veux dire, je vois que la population est là, veut faire de quoi, mais veut prendre part au processus, veut être écoutée. Et si on l'écarte, ça n'aidera pas. Donc, le problème, en tout cas, revient encore à la classe politique de qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider le processus. Des fois, elle, par calcul politique, ne tient pas ses responsabilités.
Dit comme ça, c'est triste, par contre. Ouais, parce que, oui, une population qui a incapacité de vouloir faire quelque chose et que le politique ne l'accompagne pas, c'est j'avais complètement raté cet épisode-là. C'est singulier, c'est vrai que c'est triste, dit comme ça.
Ben, c'est que la population, c'est parce que ce qui est arrivé au Canada, je peux prendre 3 minutes juste pour faire le contexte, ça va clarifier les choses. C'est que, au Canada, si vous voulez demander l'asile politique, vous entrez sur le Canadien et vous demandez, je demande l'asile politique. Donc, vous avez le droit, de par la loi, d'être accueilli et de passer une audience pour faire valoir que bien, vous êtes en danger dans votre pays d'origine et vous demandez l'asile. Et là, on étudie votre dossier et si c'est approuvé, vous pouvez rester. Mais vous pouvez aussi être refusé et être déporté dans votre pays d'origine. Donc, ça, c'est, c'était la situation. Sauf qu'entre les États-Unis et le Canada, on a passé un accord qu'on appelle l'accord du tiers pays sûr, qui stipule la chose suivante, c'est que si vous voulez migrer au Canada et demander l'asile politique, que vous partez des Antilles, disons, il faut que vous alliez directement au Canada. Si vous allez aux États-Unis, vous êtes obligé de demander l'asile politique dans le premier de ces deux pays-là où vous mettez le pied. Donc, si vous voulez aller au Canada, ultimement, ne passez pas par les États-Unis. Sinon, vous allez arriver à la frontière canadienne et quand vous allez vouloir passer le poste frontalier, on va vous dire « Non, vous êtes arrivé d'abord aux États-Unis, c'est aux États-Unis que vous devez faire votre demande. » Même chose, si vous voulez aller aux États-Unis, ne passez pas par le Canada. La douane américaine va vous dire « Non, non, vous devez faire votre demande d'asile au Canada. » Non, je ne sais pas c'est quoi la logique de cet accord-là, mais c'est comme ça que ça marche. Vous devez faire une demande d'asile dans le premier des deux pays où vous mettez le pied. Sauf qu'il y a une faille dans la loi, c'est que cette loi-là n'envisage la possibilité de refoulement qu'au poste de frontière. La frontière, c'est pas juste un poste, c'est une ligne. Si vous la franchissez ailleurs et que vous demandez, si vous rentrez au Canada à un autre endroit qu'un poste frontière et que vous demandez l'asile, là, c'est l'autre loi qui prend le dessus et on est obligé de vous entendre. Donc là, vous avez le droit. Il y a une faille qui s'est apparue après coup qu'il y avait ce problème-là et on le dit aux politiciens, faites attention, il y a un problème à ce niveau-là. C'est que s'il y avait quelque chose aux États-Unis et que les gens veulent migrer, ils vont essayer de migrer à l'extérieur des postes frontières et c'est dangereux. L'été, ça va bien, rentrer par la Saskatchewan, le Manitoba ou tout ça. En hiver, quand il fait moins 40 degrés, à chaque année, il y a des migrants qui essaient de passer la frontière à cet endroit-là et qui laissent leurs 10 doigts si ce n'est pas une main au complet à cause des engelures. Ils ne sont pas équipés. Et ça, c'est si la douane américaine ne les capture pas avant, puis comme ils ont essayé de passer, ils les renvoient ailleurs. Donc, il y avait un paradoxe légal qui crée un danger pour les personnes qui veulent migrer et les politiciens ont été avisés, mais n'ont jamais rajusté l'accord en question. Et l'été dernier, à cause de la montée de Trump aux États-Unis et de ses politiques où il disait « Bon, les gens qui sont ici, là, je vais les déporter, je vais les renvoyer, puis bon, on connaît son discours. » Bien, une grande population qui était immigrée aux États-Unis a eu peur et ont voulu demander l'asile politique au Canada. Mais le problème, c'est que, bon, ils vont passer par la frontière. En hiver, c'est dangereux. Et eux ont l'espoir qu'en arrivant au Canada et en demandant l'asile politique à cause de Trump, ils vont être acceptés de facto. Non, mais non. Ce que la loi dit, c'est que vous avez juste le droit à une audience. Et si eux sont reconnus comme n'étant pas admissibles au statut de réfugié, on les renvoie pas aux États-Unis. On les retourne dans leur pays d'origine qu'ils ont fui. Donc, c'est dramatique. Les politiciens ont été avisés de ça. On a dit qu'il faut revoir cette loi-là. Et la population l'a demandé aussi. Et bon, certains n'aimaient pas l'idée de voir des flux de migrants arriver de façon désordonnée. Donc, il y avait certains, oui, il y a des racistes partout. Il y en a qui n'aimaient pas ça. Mais il y en a d'autres qui disaient c'est dangereux, ces lois-là. En hiver, ces pauvres gens-là, vont être malades, ils vont être souffrants, les enfants vont mourir. Il faut revoir ça. Et puis, c'est quoi l'autre aspect? Il y avait la sécurité. Il y a un autre aspect qui m'est sorti de la tête. Donc, la population demandait, est-ce qu'on rajuste les choses pour harmoniser le processus? Ah, et qu'on arrête de donner de faux espoirs aux gens, qu'on fasse la vulgarisation, parce que beaucoup de réfugiés arrivaient en disant, on va être accueillis au Canada, donc les problèmes sont derrière nous. Non, non. Ils sont pris dans un bordel administratif.
Moi, je remarque juste, donc, au Canada, Donald Trump n'est pas considéré comme une catastrophe naturelle encore.
La population aimerait, mais les fonctionnaires disent autre chose. Il y en a justement à faire. Et c'est que lorsqu'il y a eu cette crise immigrante, une partie de la population a demandé, alors, il faut revoir une chose, il faut suspendre les accords, revoir les normes pour mieux accueillir ces gens-là, mieux les intégrer. Et donc, ils ont demandé, mais les politiciens ont fui. Certains politiciens qui ont demandé la suspension de l'accord des tiers pays sûrs, bien, leurs adversaires en ont profité pour faire du capital politique, les traités de racisme, tuer tout débat. Une partie de la population qui était disposée à accueillir a dit, bien, on n'est pas écouté, on aimerait ça que vous ajustez les choses, bien, vous ne faites rien. Et ça a fait de la grogne et ça a créé un certain chaos. Donc, on a eu cette crise-là cet été. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que le problème, ce n'était pas la capacité matérielle à accueillir ces gens-là. L'armée est arrivée, ils ont développé, ils ont mis des tentes, tout ça. Ça pouvait être mieux, ceci dit, les conditions. Il y avait une capacité à le faire, mais c'était le bordel politique, juridique et l'attitude des politiques qui ont essayé de faire du millage politique là-dessus pour les élections, pour plaire à tel électorat, pas plaire à d'autres. C'est ça que j'ai trouvé effrayant, finalement. C'est pas notre capacité d'accueil, c'est que le refus de dialoguer de toutes parts, de s'asseoir et trouver une solution a juste créé des tensions qui ont permis à des extrémistes de se faufiler.
Il nous reste 20 minutes. J'aimerais ouvrir les questions à la salle. Est-ce qu'il y a un micro de disponible quelque part? Merci beaucoup. Levez le doigt. Il y a une question ici.
En matière de science-fiction, mais pas forcément de roman, il y a les travaux de chercheurs et d'écrivains du Pérou. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Le pôle d'exploration des ressources urbaines, et donc ils ont travaillé à Calais pendant 2 ans, il me semble, et ils ont imaginé le magazine de Calais si jamais, justement, tout ce que vous appelez de vos voeux en matière de politique publique était appliqué. Et du coup, ils disent, bah, à Calais, il y a plusieurs églises, plusieurs lieux de culte, des bibliothèques, des magasins, des restaurants du monde entier. Et ils disent, imaginons que Calais soit la ville... la capitale de l'Europe, en fait. Et je me dis que ces travaux-là, très contemporains, qui sont basés sur de l'anthropologie et de l'écriture collective, ça pourrait être une forme de science-fiction, en fait, en acte. Je ne sais pas.
Il y a des gens qui les lisent ? Des chercheurs, voilà, entre eux, quoi. Mais encore une fois, ça devrait passer, ça devrait passer au monde politique pour que ça puisse... Enfin, je parle du monde politique, c'est peut-être nous, hein, le monde politique, tout simplement. Donc déjà, lire pour effectivement prendre conscience des choses et puis essayer de trouver des solutions tous ensemble, quoi. Mais c'est une belle idée, ça. Une belle idée. Calais, capitale du monde, ça me plaît bien.
Est-ce que vous pourriez répéter la référence? Ça serait intéressant pour...
Le Pérou.
Pôle d'exploration des ressources urbaines.
Pérou. C'est pas le Pérou.
Alors oui, ils invitent à une diffusion générale, donc Pérou. P-E-R-U.
C'est très intéressant.
Je m'excuse, Sarah, c'est que j'entendais pas, j'ai un problème d'audition, donc...
Mais merci. Il y a, c'est intéressant les travaux de chercheurs, mais je pense que dans la fiction, il y a un côté qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il y ait des personnages et que l'identification aux personnages fait qu'on a aussi émotionnellement on suit la chose et donc c'est une autre, peut-être le chercheur s'intéresse plus à l'intellect alors que l'auteur s'intéresse plus aux émotions déjà et donc c'est complémentaire finalement, les deux sont intéressants je pense.
Une autre question?
Oui, bonjour. Vous avez tous à peu près déclaré que vous étiez finalement quand même un petit peu optimiste. Moi, je voudrais faire un peu d'histoire. De quand date le roman de Harry Harrison, Soleil vert, dont le titre anglais, d'ailleurs, est bien meilleur, parce que c'est Faites place, faites place. Je crois que c'est 71.
Oui, et puis le film aussi dans les années 70, après, oui.
73, je crois. Il y a déjà tout dedans. Si ce n'est que le point horrifiant développé, c'est le fait qu'on finisse par manger nos morts. Mais pour moi, le point horrifiant, c'est que c'est une situation catastrophique du point de vue démographique, parce que déjà, il y a un réchauffement.
Donc, et puis les conditions de vie sont assez épouvantables.
C'est épouvantable, bien sûr. Mais du coup, ça fait quand même déjà plus de 40 ans qu'en science-fiction, on parle de ça. Avec un roman et un film qui ont eu un succès considérable, est-ce que ça a changé quoi que ce soit?
Non.
Non.
Mais faut insister peut-être. Mais c'est vrai que vous avez raison. Ça fait depuis les années 70 que ces problèmes sont soulevés. Et qu'effectivement, il y a eu ce film qui était un vrai coup de poing à l'époque, je pense. Et ce livre. Et oui, ça n'a pas. Pour l'instant, on est toujours dans la crise des migrants, avec des perspectives de surpopulation, de conditions de vie, enfin, etc. Oui, on est toujours là-dedans, finalement. Les ressources, maintenant, on se tourne vers les insectes. Peut-être que les insectes vont nous sauver.
Peut-être qu'il faudrait simplement enfermer les politiciens et les forcer à lire de la science-fiction.
Justement, il y a quelque chose ici, parce que j'entendais la réflexion de Pierre et l'intervention de monsieur sur Soleil Vert, et je me souviens d'avoir déjà dit à un prof de philo, mais Soleil Vert parlait de certaines de ces problématiques-là qu'on voyait au cours, puis il m'a dit « Ah, mais c'est juste de la science-fiction. »
Bonjour. Vous disiez que l'enjeu, donc... pour 2050, il ne sera pas des tenues de Fremen, donc il ne sera pas tellement technologique, mais il sera plutôt sociétal et politique. Mais j'ai l'impression qu'en 2017, le sociétal et le politique est en train d'être extrêmement dépendant ou influençable ou modifiable par la technologie. Et que donc, du coup, finalement, il y a peut-être de l'investissement technologique à faire sur un aspect sociétal et politique. Voilà, par exemple... le fait que le Congrès découvre qu'avec juste 12 millions de dollars investis dans un petit peu de technologie de Facebook et compagnie, les Russes ont réussi à influencer l'élection présidentielle. C'est de la technologie un peu, et sur un champ qui est la politique, les opinions, la vision de la réalité par les gens. Voilà, même ça, comment nous percevons tous notre réalité, comment nous, ça devient, enfin la technologie commence à prendre de l'ampleur là-dedans.
Oui, tout à fait. La prise de position tout à l'heure que j'avais, c'était pour dire peut-être que la technologie n'est pas la première réponse à avoir. Évidemment, que ce soit au niveau de la recherche, à moyen terme ou même tout de suite, il y a des éléments qui peuvent apporter des solutions, hein, sur ces thématiques de réfugiés, sur la thématique du climat. Mais c'est vrai que là encore, on évoquait par exemple aujourd'hui les montées du nationalisme, le repliement national. Moi, je voudrais avoir une image quand Pierre interrogeait est-ce qu'un pays est en capacité à amortir l'arrivée de migrants, quel que soit et de réfugiés, quelle que soit sa source climatique ou militaire. Il y a l'image du verre d'eau. Vous avez un verre d'eau, vous mettez des gouttes dedans, bon ben, vous allez peut-être avoir le goût ou la couleur qui va imprégner. Si vous avez une bouteille, tout de suite, c'est beaucoup moins. Si vous avez un seau ou une citerne, ce sera rien. Donc, ça prouve. Enfin, l'image que je veux donner, c'est-à-dire que si on arrive à tous ensemble à se mettre d'accord pour se dire qu'on se serre les coudes un moment sur ce qui évoquait là, c'est cette grande humanité, en fait, de se dire un moment ça va être compliqué et à ce niveau-là, quoi qu'il advienne, on met entre parenthèses nos différends et voilà, parce que ça peut nous arriver à nous et on s'accueille, finalement ça marche. Parce que l'exemple qui est montré au Canada et au Québec, c'est qu'il y a quand même des volontés des gens, des populations de le faire. Je ne vois pas pourquoi ailleurs tout le monde serait forcément contre l'idée que effectivement à moyen terme ou à court terme, on aura peut-être des choses à partager. Et vis-à-vis de ça, je pense que c'est ça la première solution à avoir. Effectivement, la technologie, elle reste importante, notamment en termes de recherche, en termes d'impact sur l'avenir.
Alors, pour moi, la technologie, ce n'est pas une solution. La technologie, c'est une aide, mais ce n'est pas une solution.
C'est un outil.
C'est un outil, voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais, merci. Et donc, bien, servons-nous de la technologie de maximum, mais ça part d'abord sur une réflexion. Je veux dire, on peut inventer de la poudre et faire des feux d'artifice et faire des canons. Donc, la technologie, elle est... L'histoire des Russes dont vous parlez, c'est pour des intérêts politiques. Donc souvent, la technologie est utilisée soit par des intérêts politiques, soit par des intérêts commerciaux. Donc il ne faut pas attendre de l'humanisme dans la technologie. La technologie, c'est rien. C'est juste des trucs dont on décide à quoi ça va servir. Est-ce qu'on l'offre à tous les humains ? Non. Quand on fait des médicaments, ce sont des labos pharmaceutiques qui gagnent de l'argent. Il y a toujours des histoires économiques derrière qui sont... Donc pour moi, la technologie, c'est pas la solution. C'est, enfin, effectivement, comme disait Sarah, un outil. Et donc, il faut plutôt réfléchir de façon humaine au problème en utilisant, bien entendu, la technologie, mais de façon humaine, c'est-à-dire pour le profit de tous. Et ça, c'est extrêmement naïf.
On pourrait imaginer, ceci dit, un contrôle du climat. À terme, peut-être qu'on ira vers une terraformation de la Terre. Pardon ? Ah, excusez-moi. Oui, désolé. J'ouvrais la question de la terraformation de la Terre et de la modification et le contrôle du climat.
Très grande ironie en science-fiction, parce qu'on terraformait des planètes lointaines. Là, on va reterraformer la planète d'origine. Ce serait assez amusant, oui.
C'est un peu ce que j'ai fait dans Technophérie, en fait. C'est l'effet qui re-terraforme la Terre pour réparer les bêtises des humains.
Ce qui est intéressant, c'est que l'ingénierie climatique, je ne me souviens pas si c'est... Non, ce n'est pas géo-ingénierie, mais il y a un terme pour ça. Mais il y a des recherches très intéressantes qui se font dans le domaine actuellement, mais ce serait très risqué parce que OK, relâcher de la poudre de composé de soufre dans l'atmosphère pour diminuer le rayonnement puis rétablir la température, d'accord, mais qu'est-ce que ça fait à long terme? On ne le sait pas. C'est risqué. Et certains critiquaient ça en disant que c'est juste une autre échappatoire pour ne pas régler le vrai problème. Tu sais, il y a des gens... vous avez besoin de maigrir, faites plus d'exercices. Ah, mais non, mais je vais faire... Au lieu de faire plus d'exercices, je vais juste manger moins ou mieux, mais... C'est finalement, on ne fait pas les efforts qu'il faut et on va dans une solution facile. Il me semble que ce genre de manipulation-là, ça rentre dans les solutions faciles ou peut-être dernier recours si rien n'a marché, d'accord, mais d'envisager cela comme la solution numéro un, c'est encore une fuite pour ne pas régler le vrai problème, à mon sens.
L'autre jour, Hugo Bellagoma m'a passé un article, ça concerne le nucléaire. On est en train de réfléchir de savoir comment on va prévenir les populations futures qu'il ne faut pas aller dans certaines zones parce que c'est extrêmement nocif. Et on ne sait pas comment les populations futures vont prendre les avertissements. Donc on essaie d'inventer des trucs, des aiguilles, des trucs qui sont un peu agressifs et tout, mais peut-être que les gens vont diviniser ça. Enfin, bon, voilà. Et dans 100 000 ans, on ne sait pas du tout comment les gens vont réagir à ça. Et c'est le genre d'anticipation que dans nos gouvernements sont incapables de faire preuve. Alors je pense que par rapport au climatique, on est dans exactement le même problème, quoi. C'est-à-dire on n'est pas capable de voir à même 10, 20 ans ce qui va se passer. Alors 100 000 ans, c'est un truc de malade, quoi.
D'autres questions dans la salle ? Ah oui, on ne vous voit pas, mais on va vous entendre.
Moi, personnellement, je trouve que la science-fiction, c'est extrêmement important pour prendre conscience du phénomène, surtout en Europe, parce que l'Europe... comme il a été abordé au début de la conférence, n'est pas trop concerné aujourd'hui par le changement climatique, contrairement à d'autres pays. Mais si vous voyez des pays comme les Maldives, par exemple, qui sont condamnés à être des migrants climatiques, car il n'y a aucune solution, la technologie ne peut pas les aider, sauf si on arrive à construire des cités flottantes qui pourront résister au climat.
Ce que font les Néerlandais, d'ailleurs, je crois.
Voilà, mais... à ce point-là, à ce stade-là, de toute façon, les Maldives sont déjà condamnés. Moi, j'ai plutôt le sentiment que certains gouvernements ne vont pas se pencher sur la question de comment améliorer ces conditions-là, mais plutôt comment, justement, empêcher ces gens de migrer. Car ils vont migrer de toutes les manières. Ils sont condamnés.
Les bonnes people, hein, ça va.
Mais on en revient au fait que... La solution, c'est l'humain. La technologie n'est plus qu'un outil. Mais la solution, c'est l'humain, c'est l'empathie, c'est l'ouverture à l'autre. Et il n'y a pas d'autre solution que celle d'une espèce de réconciliation globale de l'humain avec l'humain.
Et puis sur les exemples que vous donnez, c'est, là encore, c'est nier le problème ne fait pas disparaître le problème, malheureusement. Et comme vous dites, comme Pierre le cite, de toute façon, les gens migreront. Hein. Ce sera juste plus dangereux pour eux. ça en éliminera peut-être certains la volonté de le faire, ça n'élimine pas le problème. Donc il y a bien une réflexion. Se refermer, on est sûr d'une chose, on ne sait pas si travailler ensemble va nous permettre d'y arriver, mais on est une chose est sûre, si on se referme sur nous-mêmes, si on répond de façon isolée au problème, on n'y arrivera pas, c'est sûr. On a tous les exemples et les contre-exemples qui le montrent.
Une dernière question, peut-être ?
Bonjour. Oula. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez par rapport au pouvoir du peuple. Et moi, il y a un film qui m'a beaucoup redonné espoir, c'est le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui ressemble un peu à Solution locale pour désordre global qui avait été fait par Colin Serrault il y a quelques années et qui retranscrit en fait plein d'initiatives qui se font aux quatre coins du monde, que ce soit sur l'alimentation, sur l'énergie, etc. Ça nous montre aussi qu'en fait on a un pouvoir, tout n'est pas dans les mains des politiciens justement. Moi je crois beaucoup à la société civile et je pense qu'il y a aussi des choses qui se mettent en place. Et quand vous parliez de problèmes humains, un des versants de Demain parle de l'éducation. Comment on peut aussi faire en sorte que les enfants... Parce qu'il y a des chercheurs qui ont montré en fait que les enfants, des tout-petits, leur premier réflexe, c'est partager. Ils sont très démunis devant la tristesse de l'autre. Ils vont aller vers l'autre spontanément. Et c'est vers 7-8 ans que les comportements égocentriques apparaissent. En fait. Et pour moi, c'est très en lien avec quelle éducation on donne à nos enfants aussi. Qu'est-ce qu'on leur apporte à l'école? Qu'est-ce qu'on leur apprend comme valeur? Si c'est la compétition, si c'est d'avoir les meilleures notes, si c'est, c'est sûr que les problèmes ne seront pas réglés. Quoi.
C'est pas seulement l'école. C'est aussi l'éducation des parents. Et une éducation vers l'ouverture, pas vers la satisfaction immédiate, pas vers la satisfaction égoïste, mais vers le partage.
Parce que l'école, c'est plutôt nos ancêtres les Gaulois, la belle Révolution française qui a fait tant de bien pour le pays, les frontières, enfin tous ces trucs-là. Donc c'est vrai qu'il y a une grande importance, mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que la science-fiction pénètre peu à peu dans les collèges. Et entre autres, certaines nouvelles que les élèves discutent, les auteurs vont rencontrer les élèves, on en parle, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que l'éducation nationale s'est rendue compte que finalement, la littérature de science-fiction correspondait à quelque chose qu'attendent les enfants parce qu'ils ont besoin d'éclairage à la lueur de leur monde moderne à eux. Quoi. C'est-à-dire, c'est plus intéressant pour un élève de commencer par de l'ASF que de commencer par Balzac. C'est plus proche de lui, tout simplement. Il découvrira Balzac peut-être plus tard s'il découvre le plaisir de la lecture. Donc. Mais c'est intéressant de voir que la science-fiction pénètre peu à peu dans les collèges et tout ça, et qu'on a des nouvelles, on a des romans. Donc ça incite à réfléchir. Les professeurs s'en servent pour inciter leurs élèves à la réflexion. Donc peut-être par là, on y arrivera aussi. Quoi.
Il nous reste une minute. Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question?
Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, parce que justement, je crois que c'est Roland Wagner qui définissait le genre de la science-fiction comme l'un des seuls, peut-être, à se soucier de l'humanité dans son ensemble. C'est-à-dire que le fantastique, c'est plutôt l'individu, ses problèmes psychologiques intérieurs. La fantasy, ça va être l'aventure, ça va être l'héroïsme, ça va être ce qu'on veut. Et la science-fiction, c'est comment se soucier de l'humanité globalement. Et donc, si elle rentre dans les écoles, on a de l'espoir, quoi.
Et en plus, Roland Wagner, c'est l'inconscient collectif de l'humanité. C'est le moment où l'humanité tout entière se rejoint avec une psychosphère qui relie tous les hommes.
La conscience. Excusez-moi, j'aurais juste ajouter quelque chose sur l'entraide, justement. Il y a un livre de Pablo Servigne qui vient de sortir, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle », pour dire justement, c'est pas que l'humanité, mais c'est aussi le monde du vivant qui a choisi l'entraide aussi pour pouvoir exister jusqu'à aujourd'hui. Donc ce livre-là est éclairant aussi sur un point de vue biologique. L'être humain doit aussi se relier à la terre, à la nature. C'est pas l'humain au centre, c'est l'humain qui est dans la nature. Si on n'a pas cette conscience-là, avec l'épuisement des ressources dans un monde limité, si on n'est que dans l'aveuglement humain pro-humain, on n'y arrivera pas non plus.
Oui, je suis d'accord avec vous, on fait partie d'un tout et le tout est très important. Il faut être en relation avec ce tout-là aussi, végétal, etc. Enfin, tout le animal, tout le monde. Oui, je suis assez d'accord avec vous là-dessus.
Et on va clore cette table ronde sur ces derniers mots. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à aller ensuite à la librairie où la plupart de nos auteurs sont en signature. Au revoir.